9h40, notre invité ce matin, Jean Soulard, n'a pas vraiment besoin de présentation, on le sait. Il a dirigé les cuisines du château Frontenac pendant des années. Il a fait le tour du monde, travaillé pour des maisons étoilées. Il nous propose un recueil composé des histoires qui ont marqué sa route de cuisinier de l'enfance, je dirais, pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Jean Soulard, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
C'est un livre super intéressant parce que ça montre le parcours que vous avez suivi. Et je vais commencer ce matin par l'enfance. Vous avez été, je dirais, initié à la cuisine très tôt dans votre vie.
Oui, tout à fait. La chance d'avoir eu deux grands-mères dans un minuscule village de Vendée, du côté de la France. Et la première grand-mère qui avait l'auberge du village et la deuxième grand-mère qui avait la boulangerie du village. Mon père a été boulanger et ma mère était avec la sienne dans l'auberge. Alors voilà, une enfance au milieu de la nourriture, au milieu des clients, au milieu de la nature aussi, puis d'un grand-père qui avait un grand jardin, qui élevait le cochon, qui élevait le poulet, les lapins, qu'on servait aux clients, et voilà.
Et est-ce qu'on vous a laissé de l'autonomie assez rapidement ou si vous avez été un témoin pendant des années?
Je dois dire que j'ai eu assez rapidement de l'autonomie. Dès que l'école hôtelière a été finie à 16 ans, j'ai compris que si je voulais manger, il fallait que je commence à travailler. Puis j'ai pris ma valise ou plutôt mon sac dans ce temps-là et puis j'ai commencé à chercher une maison qui pouvait m'accueillir. Quand j'ai une maison, un restaurant. Et j'ai compris très rapidement que pour apprendre ce métier de cuisinier, il fallait connaître beaucoup d'expérience à travers beaucoup de restaurants et que ce genre d'expérience allait m'amener donc à voyager. Et le voyage a entraîné les différentes maisons et ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'ai appris mon métier et que j'ai beaucoup voyagé.
Le titre de votre livre, c'est « Chef, oui, chef ». Et d'ailleurs, vous racontez une anecdote, parce qu'on a toujours, on pense que c'est un cliché, mais les relations entre un chef dans une cuisine et les membres de sa brigade, on a l'impression, en tout cas avec l'anecdote que vous donnez, on peut vous prendre en grippe ou en tout cas vous devenez un employé sous une dictature.
Là. C'était un temps où, on parle d'il y a quand même quelques décennies, où évidemment le chef était Dieu dans sa cuisine et puis que, comme on dit chez nous, ça pouvait fesser comme il faut, OK? Et c'était une époque où c'était acceptable, j'en sais rien, mais accepté. Ça m'a pas laissé aucune trace psychologique. On savait que des casseroles de cuivre pouvaient nous voler entre les jambes. Des fois, un coup de poing pouvait nous balancer dans le réfrigérateur, dans le fond de la cuisine. Mais oui, c'était dur. On apprenait à la dure. Et aussi, on prenait des leçons par rapport à ça. Moi, je me souviens de haut de mes 15 ans, quand ça m'était arrivé, je me suis dit, ouais, OK, si un jour, peut-être que si je suis chef, je pense que je ne vais pas fesser les collègues, OK? Et c'était une éducation à la dure, avec des gens qui étaient souvent pris avec l'alcool dans la cuisine et bien d'autres choses. Et voilà, c'est comme ça qu'on grandissait. J'imagine que ça n'existe plus, du moins c'est ce que mes collègues en Europe me disent, et parce qu'assurément, ce n'était pas acceptable.
Bon, il y a plusieurs anecdotes, je voudrais en retenir deux ou trois pour les fins de la discussion de ce matin. On parle du château Frontenac. Bon, vous avez servi des gens connus, vous avez servi un président américain, des premiers ministres. Peut-être raconter aux auditeurs, qu'est-ce que ça implique quand on reçoit des invités là, de cette taille?
Ça implique de l'équipe beaucoup de rigueur, bien évidemment. Je veux dire, on a d'abord toute une gang de sécurité autour de nous, le protocole qui est autour de nous, et puis on peut pas se tromper, parce que évidemment tout est structuré, pas de retard, tout doit être parfait. Ce que le président ou la vedette qui est dans sa suite, ils prennent l'étage généralement quand c'est du monde de la politique, ils prennent les étages au complet. Évidemment, tout doit être parfait. Ok. Alors bien sûr, il y a des expériences là-dedans. Je raconte entre autres les jujubes du président. Oui. Là, on parle du président américain. Dans la liste qu'il voulait dans sa suite, il veut des jujubes. Moi, je sais pas trop ce que c'est que des jujubes. J'appelais ça des jujubes dans ce temps-là. Et qui est ma chef acheteuse, va me chercher des jujubes que je mets dans le plus beau plat que j'ai dans la cuisine et ça monte dans sa suite. Mais pour une heure plus tard, me rendre compte avec le bras droit du président qui s'occupe de toutes ses affaires, que c'est pas les bons jujubes que j'avais montés dans la chambre et qui me dit « Vous inquiétez pas, je vais vous amener des jujubes quelques heures plus tard. » Vous savez, la grosse voiture du président blindée qui est plus long que ma maison, qui arrive devant l'hôtel, on m'appelle en urgence en disant « Il y a quelqu'un pour vous. » Et là, il y a un haut gradé carré là qui sort de la maison et qui est de la voiture, je veux dire, et qui me tend un paquet en me disant « Monsieur Soulard, c'est pour vous » et je découvre un peu plus tard que ce sont les jujubes du président. Il y a une couleur qui manquait, je ne m'en souviens pas de la couleur. Mais bon, le plat monte dans la suite. Le lendemain, le plat redescend. Il n'en avait pas mangé une. C'est moi qui les ai mangés dans la semaine qui m'a suivi avec les jujubes dans le coin de mon bureau.
Voilà. Vous parlez évidemment beaucoup de vos voyages, des expériences que vous avez eues, que ce soit dans le Maghreb, que ce soit en Asie. Et on voit l'importance, peu importe l'endroit où on se trouve dans le monde, des traditions locales et des produits locaux.
Oui. Alors évidemment, vous grandissez avec ça. Moi, j'ai une formation très, très française. Et puis, vous découvrez qu'il y a autre chose. Vous insinuez, ou plutôt vous parlez de la route des épices pour moi.
Entre autres.
Et la route des épices a été pour moi quelque chose de fantastique. Dans mon apprentissage, les épices, c'était une épice dans un plat, dans une sauce. Okay? Et je découvre petit à petit, à l'intérieur d'un voyage au Maghreb, et aussi après ça à l'île Maurice, puis finalement en Inde, que les épices, c'était pas une seule, mais c'était plusieurs qui avaient une façon de les cuire, une façon de les mélanger, de les doser. Et tout le long du voyage qui se déroule sur une dizaine d'années, quelque part, je découvre vraiment comment utiliser ces épices, comment les découvrir, comment les rechercher, comment aller où ils poussent, okay, et découvrir le fermier, le paysan qui s'en occupe et qui a un amour infini pour ces épices en question. Alors oui, c'était ça. C'est aussi la pêche en plein milieu du Pacifique quand je travaille à Guam ou quand je travaille au Japon. Guam, qui est une île au milieu du Pacifique, où là, évidemment, vous avez les plus beaux espadons ou bluefin, comme on les appelle là-bas, qui arrivent par un pêcheur. Ça me rappelait un peu Hemingway avec sa pêche de son gros poisson. Et donc, je raconte ces histoires-là. Mais évidemment, la plus grande chose que j'ai pu découvrir, c'est ici à Québec, où j'arrive dans des années où le mot terroir et produit du terroir n'existait pas toujours. Et avec pas mal de collègues à l'intérieur de la province, on découvre des artisans qui sont capables de nous faire sortir tous les produits qu'on va avoir besoin, qu'on connaît bien, mais qu'on n'a pas. Alors là, évidemment, j'ai un jardinier aux éboulements, M. Jean Leblon, qui est un des premiers qui s'entraîne et qui nous entraîne aussi dans son rêve et d'avoir de ces produits-là, les fromages évidemment, mais aussi plein de choses et tout ce que j'ai pu aussi semer sur le toit du château, non seulement des fines herbes, mais aussi y installer les poules Chanteclair qui sont en train de se mourir ou alors les premières ruches sur un toit qui était assez emballant à regarder produire le miel.
Jean Soulard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est fascinant, merci. Fascinant comme histoire. Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Jean Soulard, chef festin de récits bien assaisonnés. C'est en librairie à compter d'aujourd'hui. 9h49, on revient pour la conclusion.